Voici un homme qui n'a pas eu de chance. Le chemin qu'il a pris était dangereux. Il le savait, sans doute, mais peut-être n'avait-il pas d'autre choix que de passer par là. Le voilà maltraité, dépouillé, blessé, laissé pour mort. Le voilà dans toute sa fragilité. On ne connaît pas son nom, comme beaucoup de personnes qui disparaissent de nos jours sur les chemins risqués de l'exil. Il reste anonyme, arraché à l'attention du monde et privé d'histoire. Voici deux notables, le prêtre et le lévite, sont des personnages importants de la société de leur époque. Ils connaissent la loi qui garantit l'ordre et la cohésion sociale. Ils connaissent les rites religieux qui permettent d'assurer l'équilibre de la vie. On ne connaît pas leur nom, seule leur fonction les relie au monde de notre récit. Ils voient le blessé, mais ils renoncent à lui porter secours. Il faut dire que leur règlement leur interdit de toucher les morts. On imagine bien qu'une telle législation n'est pas dénuée de bien fondé ou d'utilité. Elle porte sans doute en elle le souvenir d'épidémies mortelles. Elle est le reflet d'une mémoire tapissée d'angoisse, car en ce temps-là, on ignorait tout de la propagation des maladies et on préférait redoubler de prudence. Plus près de nous, au Moyen Âge, on enterrait d'abord les gens tout près des églises, puis après les grands épisodes de peste qui décimèrent la population, on prit l'habitude d'installer les cimetières à l'écart des lieux de vie. De la même manière, on peut bien imaginer que si pour les contemporains de Jésus, toucher les morts rendait impur, c'était aussi parce qu'on craignait d'y laisser sa santé, voire sa vie. Les deux notables de notre histoire effectuent donc une pesée d'intérêts. Ils se disent que la probabilité que cet homme soit mort est tout de même très élevée et qu'il est préférable de ne pas prendre le risque d'entrer en contact avec lui. Et puis que diraient les gens s'ils apprenaient qu'ils ont enfreint la loi, eux, les dignitaires, garants de l'ordre social et religieux? Mieux vaut donc passer son chemin. Mais voici qu'un Samaritain qui passe par là n'écoute que sa compassion et porte secours aux blessés. Pour lui, il n'y a pas à tergiverser. Il ne prend pas le temps de peser le pour et le contre ou de disserter sur l'utilité de sa démarche. Un homme est à terre. La seule urgence est de le secourir et de redresser sa dignité bafouée. Faire entrer ce Samaritain sur la scène du récit n'est pas anodin. Il faut dire que les gens de Samarie n'étaient pas appréciés du tout par les habitants des régions voisines, qui refusaient de les fréquenter pour cause d'incompatibilité culturelle et religieuse. Les habitants de Judée voyaient leurs voisins de Samarie comme des personnes à la doctrine douteuse et donc peu capables de prendre des décisions éclairées et conformes au bien commun. Vous aurez remarqué qu'on ignore tout de cet homme si ce n'est son origine. Il vient de Samarie, point final. Il est celui dont personne n'attend rien de bien. Alors quand Jésus le présente comme étant le seul capable d'agir de manière conforme à la loi, c'est une sacrée provocation pour ses contemporains. Se confronter à ce personnage va mettre leur certitude à rude épreuve. C'est un électrochoc pour les faire réfléchir. Qui est mon prochain ? Derrière cette question, il y a la volonté de fixer des critères pour donner une bonne définition de ce que doit être un prochain. Pour être un bon prochain, il faut être fréquentable et ne pas mettre en péril l'équilibre de la société. Le Samaritain ne passe a priori pas le casting du prochain pour les premiers lecteurs de l'Évangile de Luc. Pour être un prochain secourable, il faut avoir un intérêt digne de protection. Le blessé à demi-mort n'a pas non plus le profil de l'emploi. Nous qui lisons ce texte depuis toujours, nous avons compris que c'est le Samaritain qui a raison et qu'il a bien fait de laisser parler ses émotions. N'empêche, si on sort de notre récit et qu'on retourne à notre époque, on se rend compte qu'il n'est pas si facile d'agir comme le Samaritain. Qui est mon prochain ? À notre époque où de nombreuses personnes sont jetées sur les routes de l'exil, cette question se pose à nouveau avec force. Que nous dit la loi sur l'asile de notre pays ? Pour être un réfugié, pour être un prochain qui a le droit d'être à proximité de nous, il faut être exposé à un sérieux préjudice en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. C'est le texte de la loi. La loi établit donc des critères exhaustifs. Le but est bien sûr de réguler le flux migratoire. Et on dira tout naturellement, évidemment, qu'il faut réguler les déplacements. On ne peut pas répondre à toutes les demandes. On serait débordé. Alors on fait au mieux. On établit des critères pour sélectionner les cas les plus graves. Mais on sait bien qu'au fond, on ne prend pas le risque de quitter son pays et de voyager au péril de sa vie si on n'est pas si mal chez soi. On coordonne tant bien que mal la politique migratoire des pays européens pour que chacun porte sa part de responsabilité. Mais on sait bien, dans le fond, que tout le monde ne joue pas le jeu et que les droits fondamentaux des personnes en exil ne sont pas respectés partout. Vous noterez que Jésus n'établit aucun critère. Il renverse la perspective. Le prochain, ce n'est pas un ensemble de qualités objectives que je peux mettre à distance et analyser. Ce n'est pas d'abord celui ou celle qui partage mes principes et ma culture. Ce n'est pas d'abord celui ou celle qui remplit des conditions pour être sauvé. Non, le prochain, c'est celui ou celle qui s'approche, ému par le sort de celui qui est tombé. Le prochain, c'est celui ou celle à la place de qui je pourrais être si j'étais moi aussi en route et vulnérable. Le prochain, ce n'est pas un objet que je peux définir par des critères. Prochain, c'est ce que nous devenons l'un pour l'autre quand une relation s'établit. Le Samaritain se fait prochain pour secourir son prochain. Dans son élan, il n'y a pas de place pour brandir un bouclier légal qui permettrait de ne pas se mettre en péril. Il n'y a pas de place pour nourrir l'idéal du risque zéro. Il n'y a pas de place pour entretenir l'obsession d'une société sûre et homogène. En renversant la perspective, Jésus nous questionne. Et si c'était toi qui étais là, couché par terre, sans défense, qui voudrais-tu rencontrer ? Un légiste qui met des critères sur ton malheur ? Ou un semblable qui se laisse bouleverser par ton sort ? Bien sûr, les lois ne sont pas toujours restrictives. Elles nous donnent parfois des orientations fondamentales. Aimer son prochain comme soi-même, c'est ne pas lui faire subir ce que je ne voudrais pas qu'on m'inflige, Ce principe est concrétisé aujourd'hui par l'interdiction de la torture, par l'interdiction du meurtre et de toute forme d'exploitation. Mais même si la loi est parfois une source d'inspiration qui nous ouvre des perspectives pour défendre la dignité humaine, la justice ne jaillit pas toute seule de la loi. Ce que nous montre cette parabole, c'est qu'il ne peut pas y avoir de justice sans rencontre. Et dans toute rencontre se pose la question de la présence de Dieu. Mon prochain est à l'image de Dieu. Il est porteur d'une dignité qui transcende toutes mes tentatives d'en faire un objet. Et puis, en dehors de toute relation humaine, Dieu reste un mythe, une histoire à dormir debout, un vieux barbu sur un nuage ou un grand horloger qui ne se soucie pas de nous et qui ne nous parle pas. Dieu vient nous faire signe dans chaque geste qui redresse, qui restaure, qui guérit. Alors faire la volonté de Dieu, c'est se laisser toucher de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force et de toute son intelligence par la vulnérabilité qui nous fait face. C'est la seule manière d'éviter que nos lois ne deviennent des lieux de fermeture, saturés de critères toujours plus stricts, et qu'elles ne soient pas des listes exhaustives qui prétendent épuiser les possibilités d'accueil. Le combat de la justice, ce n'est pas l'exhaustivité, c'est la défense de la singularité. Faire justice, c'est permettre à des récits singuliers d'émerger de l'océan d'indifférence dans lequel ils se noient. Un récit comme celui de cet homme, rencontré sur la route, abandonné et blessé. Peu à peu, à travers les gestes d'un prochain qui lui redonne un corps et une histoire à vivre, sa singularité se redresse et un chemin se dessine à nouveau sous ses pas. Oui, le fondement de toute loi, c'est un geste qui rend justice. Je suis cette personne sans nom, sans qualité, profondément vulnérable. Je suis celui qui a besoin d'accueil et de considération. Je suis aussi cette main tendue qui relève. Je suis cette indignation face à l'anéantissement de mon prochain. Va, fais de même. Cette parabole ne nous demande pas pour autant de renoncer à nous-mêmes pour nous dévouer aux autres. Elle ne nous demande pas une abnégation héroïque ou une générosité sans faille. D'ailleurs, après s'être fait proche, le prochain s'en va. Il transmet le flambeau de la dignité à un autre pour qu'il prenne le relais. Le Samaritain de cette histoire ne s'enferme pas dans son rôle de bienfaiteur. Il sait qu'il est fait de la même étoffe que tout un chacun, ni plus ni moins. Il sait que ses ressources sont limitées. Le prochain ne s'approche pas pour être un sauveur, mais pour partager ce qui nous fait tous tenir debout. Cette parabole nous demande simplement d'entrer dans un processus de réciprocité, en n'oubliant jamais que nous pourrions toutes et tous être cet homme abandonné le long du chemin. Et dans ce renversement de perspective, un autre monde est en gestation. Un monde où les lois s'ouvrent à la complexité des destins individuels. Un monde où la lutte pour la dignité ne cède en rien sur les intérêts économiques. Un monde de courage, où les politiques déshumanisantes sont combattues au nom du droit de chacune et de chacun à la vie. Amen.